épouse. À jamais. Impossible de faire marche arrière. À leurs yeux, tu n'es qu'un monstre. Comme moi.
Super héros, super pouvoir, quoi. Super héros, super pouvoir, quoi. Je veux pas dire que j'avais à m'identifier, mais bon.
Je m'attendais à quelque chose de grand. J'ai pu assister vraiment à quelque chose de très grand. Enfin, je pense, parce que.
Super héros, super pouvoir, quoi. Je veux pas dire que j'avais à m'identifier, mais bon. Quelque part, on aime toujours. Ensuite, peut-être s'identifier quand même au héros, quoi. C'est.
Oui, il veut tirer de. Il veut faire le plus peur, il veut être le meilleur, il a grandes ambitions par rapport à ça. C'est ça que vous voulez dire.
Qu'est-ce qu'on a?
Rien. Ni nom, ni pseudonyme quelconque. Vêtements faits sur mesure. Rien dans les poches, à part des couteaux et de la poussière.
Bonsoir, commissaire.
Oui, il y a ce côté-là, ce serait plus le. Comment dire, vraiment terre à terre, le plus ce côté d'avoir des super pouvoirs, quoi, en fait. C'est pouvoir faire des choses extraordinaires. Peut-être se sentir plus fort que les autres en ayant des super pouvoirs. Bon, après, effectivement, il y a le côté moral. De grands pouvoirs implique une grande responsabilité. Après, on va entendre le côté psychologique. Enfin, c'est vrai que c'est.
C'est bref, c'est ça, c'est discret, c'est efficace. C'est.
Mais juste le côté pouvoir faire des choses extraordinaires, quoi. Une grande force, je sais pas, pouvoir voler, des choses de ce genre-là, quoi. C'est.
Ça rajoute de la mystification dans le personnage.
On voit de rebondissement en rebondissement. Bon, c'est ce qui lui a été reproché, si tant est-il qu'on puisse lui reprocher quelque chose, c'est parfois des maladresses, mais bon.
Ça donne une force, effectivement.
Pourquoi cet air si sérieux? Où est-il? Les gens meurent. Que pourrais-je y faire?
Endurez-le, devenez le paria. Faites le choix auquel personne ne fera face. Le bon choix. Gotham a besoin de vous.
Un peu de combativité, j'aime ça. Alors tu vas m'adorer.
Voilà qui est mieux, Monsieur Wayne.
Le teaser
fait partie du plan.
Le teaser est tout simplement magique. Hein. Quand on regarde le teaser, la musique est superbement choisie, les images sont très très belles aussi. En fait, c'est un film, bon, c'est encore une adaptation de comics, hein, tout simplement.
Je pense que The Dark Knight doit beaucoup au Joker aussi, en fait. Hein, qui, j'ai lu, bon, dans certaines critiques, j'ai eu beaucoup de critiques, qu'en fait, bon, le héros du film serait plus Joker.
J'ai trouvé que ça, c'était très très intéressant de justement tomber, enfin ne pas tomber dans un film de super-héros classique où il sauve tout le monde et on est content. C'est de voir les problèmes du personnage, comment il arrive à gérer même sa double personnalité Bruce Wayne Batman, et là-dessus vient se greffer une couche d'action et de scènes ultra spectaculaires qui sont d'autant plus efficaces et d'autant plus jouissives que le reste du film est également très très fort.
Non, en plus, on a sorti de la salle, on n'est pas du tout du même avis avec le copain avec lequel je suis allé. C'est que, pour lui, le personnage de Harvey Double Face, il meurt. Il n'est plus là, on le verra plus. Pour moi, il est encore là. Parce qu'en fait, selon moi, peut-être qu'il fera qu'une apparition. Mais Harvey Dent est mort, Double Face est né.
Donc cette fin où Bruce Wayne, Batman, endosse la responsabilité des meurtres de Double Face et en fait découvre que son futur pire ennemi est un psychopathe complètement à l'opposé de lui. J'ai trouvé vraiment ça dans l'esprit du comics et de l'ancien dessin animé qui passait dans les années 90.
Un peu l'esclave du Joker. Le Double Face est un peu l'esclave du Joker, en fait. Il va permettre d'atteindre Bruce Wayne, enfin Batman, d'une manière différente. Parce que comme il est schizophrène, il y a des moments où peut-être il va repartir du bon côté. Donc, il va permettre de recréer une situation un peu plus calme, donc permettre au Joker de repartir. Le problème, c'est que là, ça paraît mal barré.
Nicholson a apporté en fait tout simplement cette petite touche de psychopathe qu'il avait dans Le Silence des Agneaux en Hannibal Lecter. Donc il a apporté cette petite touche au personnage qui a été fabuleusement repris par Erzeger avec une méthode, beaucoup plus de jeunesse en fait. De jeunesse, de spontanéité. Retranscrire ceci au cinéma, ce n'était pas vraiment facile. Et ça a vraiment été bien fait. Dans le comics, je suis pas très. Disons que je le connais sur. Par rapport au dessin animé, au vieux dessin animé. Dans le comics, je crois que une des scènes justement qui reprend une alliance entre Joker et Edward Nigma, l'homme mystère, qui en fait torture l'entourage de Batman, qui est obligé de prendre des méthodes beaucoup plus musclées et violentes que ce qu'il fait habituellement. Alors, jusqu'à même torturer certains lieutenants du Joker. Disons que dans le bien, il y a toujours une part cachée de mal, en fait, tout simplement. Le mal n'est rien sans le bien, le bien n'est rien sans le mal, tout simplement. Souvent beaucoup plus noir encore. Il y a vraiment encore plus noir. Dans le vrai comics Batman, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus noir que ça, où on se plonge vraiment dans le mal, dans un Batman qui est très violent, et avec des méthodes plus ou moins expéditives.
Est-ce que le mal n'est pas... Parfois, est-ce qu'en prétendant faire le bien, est-ce qu'on fait pas aussi du mal? Est-ce que, les conflits en Afghanistan, en Irak, etc., ont permis notamment à l'administration Bush, je pense, c'est un peu... faire de la géopolitique de très très bas niveau, mais... ça a permis quand même à l'administration Bush de s'implanter en Moyen-Orient, d'avoir quelque peu le contrôle sur les flux de pétrole, etc.
Mais ça, là, le réalisateur, l'autre la portée toute politique et idéologique du terroriste. Ce qui est peut-être une erreur, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est peut-être pas si efficace cette allégorie. Mais dans la vision du terroriste dans ce film, c'est juste quelqu'un qui veut faire peur, qui veut terrifier, qui prend son pouvoir à être à l'opposé de tout, justement. Mais sinon, l'allégorie
de la modernité, du phénomène post-11 septembre, les explosions, etc., le terrorisme, ça peut frapper n'importe où, c'est pas laissé au hasard, et le scénario... Il y a plein de rebondissements, ça donne du rythme à l'histoire. Et
Il m'a surpris, parce que je me disais, ouais, il fait pas... Il est assez, effrayant, je dirais.
J'ai lu des bouquins, je ne suis pas non plus à ce moment-là, mais j'ai lu pas mal de choses sur Internet qui disaient qu'en fait, c'est un personnage où on lui a créé tellement de vie que justement, dans les comics, il y a des moments où il dit « je ne sais même pas qui je suis ».
Il est drôle, mais effrayant un petit peu à la fois. C'est quelqu'un qui...
Non, c'est dans le comic, c'est juste un malfrat, presque comme un autre, mais c'est le rival Batman, c'est tout.
Qui aussi le surprend,
Oui, parce qu'au départ, il a été construit sur un moule, et puis ensuite, il a été remodifié, puis ensuite, il y a Frank Miller qui est passé, et qui a recréé encore un autre concept de Joker, beaucoup plus allumé que d'habitude, et du coup, on s'y perd un peu.
Bah, c'est qu'on le voit, de toute façon, à un moment donné, Batman l'éjecte d'un immeuble, puis le Joker, on le voit, il descend de l'immeuble et tout, il rigole, et il dit « Ah, ça y est, Batman m'a tué, je suis content », il rigole, et puis bon, Batman le rattrape avec son grappin, puis bon, après, le Joker arrête de rigoler. Donc, j'avais compris ça en disant, ouais, c'est son but, quoi, dire...
Au moment où Batman pourrait l'écraser, on est quasiment sur la moto, prêt à l'écraser, prêt à faire le mal aussi, prêt à tuer, quasiment, tellement c'est quelqu'un qui est frustrant, mais dans le sens où il regorge de mauvaises idées. C'est le génie du mal par excellence. Il n'a aucune limite, aucune règle. Je pense aussi au requin des dents de la mer. Par exemple, Steven Spielberg, il filme l'eau. On a l'impression que le requin va sortir. On a l'impression que déjà que le requin est là. Et tout le film, dans le Dark Knight, le Joker n'est pas là. On filme une scène, mais on a l'impression qu'il est là. Il est là, sans jamais être là, en fait. Et bon, quand il est... Il y a eu tellement d'attentes autour de ce film.
On le ressent tout de suite. On voit que le Joker... Que joue Heath Ledger, laisse sans surprise les gens, il tue n'importe qui, voilà. On voit que Batman, il a beaucoup de soucis à se faire envers, pas Batman, mais Bruce Wayne a beaucoup de soucis à se faire entre continuer de sauver des vies ou de laisser tomber, s'il doit...
D'autant que par des petites phrases, le Joker va questionner le spectateur, notamment dans le monologue où ils sont en prison, qui est à peu près aux trois quarts du film. Le Joker annonce que de toute façon, lui, son but, c'est pas de tuer Batman, parce qu'il n'existe pas. S'il n'y a pas quelqu'un en fait pour le mettre sur un piédestal, il n'existe pas, le Joker. Parce que Batman ne se lance qu'à la poursuite du Joker, donc finalement, ça le met en position presque de leader. Et je pense pas que ce soit son but soit destitué, son but c'est de mettre la ville sous forme de chaos, de faire le chaos au sein de Gotham City, et que pour ça il se donne un plan et les moyens de récupérer derrière lui la mafia, d'avoir les financements, mais après on sent qu'il s'amuse aussi le Joker à mettre le bazar.
C'est pour la mise en scène et ça entretient le côté mystérieux, puisque de toute façon, tout au long du film, on sait pas qui il est. On sait pas d'où il vient. Bah, ne serait-ce déjà que, je sais pas, le maquillage, sa tenue. C'est plus sombre, c'est plus bariolé, je sais pas, c'est vraiment... il fait...
Ce qui a été un pari très gros, c'est de remplacer le Joker. Parce que beaucoup de gens disaient Jack Nicholson, c'est le Joker, il faut pas... Voilà. Mais bon, Heath Ledger a su marquer le coup. Et l'a complètement anéanti, quoi. Le Joker de Nicholson, il est rangé au placard et passe à Heath Ledger. Qui, lui, est plutôt...
Sa vision du monde, vraiment très noire. Vraiment très très noire. Et puis, on ne sait pas véritablement pourquoi, en plus. Il apparaît. On ne sait pas trop d'où il vient. Enfin, même pas du tout. Il est vraiment là, comme ils expliquent dans le film, il est vraiment là pour faire le mal. Il veut rien, en fait. Tout ce qu'il veut, c'est... il veut vraiment... comment dire ? Faire ressortir le côté sombre de chaque homme, en fait. Il veut démontrer que l'humain est mauvais de nature et qu'il y a juste, en fait, à le pousser un petit peu pour démontrer que l'homme est mauvais, en fait, au fond. Et, comme lui, il est, d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi il est comme ça, mais il veut démontrer cela, en fait, je pense.
Il est machiavélique, drôle aussi. Hein, c'est sans tomber jamais dans le... Bon, par exemple, dans le Batman de Nicholson, hein, ou le Batman de Nicholson, de Burton avec Nicholson, où bon, il est assez coloré, etc. Là, il est sale. Et il paraît tout droit sorti de l'enfer. Vraiment. Moi, Batman, ça m'a renvoyé à deux films que j'avais vus avant, au niveau de l'ambiance à There Will Be Blood, et au niveau du Joker, au personnage dans No Country for Old Men, de Javier Bardem, intouchable. Vraiment, on peut... Il est immortel, quasiment. On voit vraiment pas ce qui va l'arrêter ou ce qui pourrait le tuer.
Mais en fait, bon... Batman, pour le Joker, c'est un peu un faire-valoir, en fait. Si... Pour lui, enfin, s'il n'y avait pas de Batman, il ferait rien, en fait, je pense, au Joker. Il le sait, pour lui, Batman, c'est pas... c'est un adversaire, mais... je vais pas dire c'est un allié pour lui, parce qu'ils n'ont pas du tout la même vision, mais... il se sert, en fait, de Batman pour mettre ses plans en action, en fait. C'est...
Il regorge de mauvaises idées. Ce qui m'a... On voudrait quasiment que le film soit centré sur lui. Tellement, à chaque fois, bon, bah, il sort... il a toujours un Joker dans sa manche.
Comme il dit dans le film, il veut pas le tuer, en fait. S'il le tue, il a plus de... On va dire il a plus d'ennemis, mais enfin bon... il se retrouve tout seul, quoi, parce qu'on sent qu'il est quand même, il a quand même une intelligence supérieure. Bon, il se lie un petit peu avec la pègre, mais bon, c'est bien qu'on, enfin, on voit que la pègre, là, ils sont un petit peu limités. Ils se cantonnent, de leur raquette, de tout ça, mais on sent qu'il n'y a pas un esprit supérieur, quoi. Lui, on sent qu'il est supérieur à ça, et que, voilà, il veut... C'est comme un jeu, je pense, avec Batman. Pour lui, c'est un peu un jeu.
Je connais un peu le personnage dans la BD, c'est surtout ça. Non, c'est pas mystifiant, mais ça montre jusqu'où il peut aller.
Parce qu'à la fois, on est dans un film policier, avec une vraie intrigue policière, une vraie tension qui se met en place. Et au milieu de cette intrigue, qui est extrêmement bien menée, avec un personnage manipulateur qui est le Joker, qui organise tout un plan qu'on voit se dérouler sous nos yeux sans forcément percevoir les ficelles qui sont tirées. Et au milieu de ça, on a le super-héros Batman, qui est non pas vraiment traité comme un super-héros tel qu'on peut le voir dans les films type Superman ou Spider-Man, mais qui est plus une sorte de justicier qui fait avec ce qu'il peut, qui va être détesté.
Mais comme il y a plusieurs BD sur ce même sur Batman, il y a plusieurs BD de Joker, donc je le connais pas tous. Mais oui, je dirais qu'il est aussi brillant. Peut-être moins, ça se voit moins. Parce que là, c'est vraiment mise en scène, il y a les pièges de la police, et en fait, il tombe dans le piège du Joker. C'est... Pour quelqu'un qui dit qu'il réfléchit pas dans le film, à un moment, il dit qu'il fait ça à l'instinct. Il est quand même super prévoyant pour quelqu'un qui fait ça à l'instinct. Beau, presque, esthétiquement, il est avec son maquillage, tout ça, c'est parfait. Par rapport à la BD, oui, non, il est plus sale, il est plus vrai que la BD, c'est en ça que le film il est vraiment bien, c'est parce qu'on y croit. Il prend du plaisir, oui. Mais c'est pour ça qu'il échappe justement à la logique de Batman, c'est qu'il est en dehors du fric, il est en dehors du pouvoir en tant que tel, même s'il tire son pouvoir de ce qu'il fait. Il échappe justement à ses règles conventionnelles, mais ce qu'il veut, c'est montrer que les gens sont mauvais, comme lui l'est. Mais là, juste dans le personnage terroriste, la part terroriste du Joker, je vois juste une volonté de faire peur, de prendre plaisir à faire peur, mais...
La scène des deux bateaux, où quand il propose aux deux capitaines des bateaux de faire exploser soit un des deux bateaux qui contient toute la racaille de Gotham, tous les criminels, ceux qui viennent de prison, et de l'autre côté des citoyens plus ou moins modèles, des femmes, des enfants, des pères de famille, des hommes d'affaires, et savoir qui explosera en premier entre tout ce qui est corrompu et tout ce qui est la bonne face de Gotham.
Il essaie de faire ça, il essaie aussi de pousser les gens au vice. On voit dans la dernière scène où il y a les deux bateaux, où il explique qu'en fait chacun doit tuer l'autre. Lui, ce qu'il veut, c'est que montrer que finalement les gens sont affreux et que pour survivre, ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à écraser l'autre pour survivre. Donc il essaye de finalement, je pense, montrer le vrai visage de chacun des personnes et de. Ouais, comme tu dis, de démystifier autant. Les habitants de la ville que Batman. Pour finalement essayer de démontrer que tout le monde est complètement fou, ce qui n'arrive pas.
D'habitude, dans ce genre de film, quand même, à la fin, on apprend toujours un petit peu qui est le personnage, peut-être qui il est un petit peu quand même, sans vraiment dévoiler son identité. Mais là, je trouve qu'il n'y a vraiment rien du tout.
J'avais un pronostic, oui, je sentais que ça n'allait pas exploser. Pourquoi ça n'allait pas exploser, je ne savais pas si finalement il n'y avait pas de bombe ou s'il y en avait une, mais que les gens ne feraient pas sauter. D'autant qu'on était déjà presque à la fin du film, si les bateaux avaient explosé, on aurait relancé l'intrigue. D'autant que l'intrigue de Batman Dark Knight avait été relancée déjà bien des fois au fur et à mesure du film.
Premièrement, il est pris au piège parce que lui, Batman, en tant que manière justicier, héros, il a des règles à respecter, il peut pas faire ce qu'il veut en fait. Tandis que lui, Joker, il a vraiment aucune règle. Il a pas de limite en fait. On le voit dans plusieurs scènes, le Joker, il n'hésite pas à tuer les gens, voilà, c'est vraiment sans état d'âme. Tandis que quand Batman est face à lui, qu'il a l'occasion de, on va dire, de l'éliminer, il le fait pas quoi. Donc oui, Batman, faut qu'il choisisse. Il a des choix difficiles à faire là. Pas tellement difficiles qu'à la fin, c'est pas pour sauver son honneur à lui, c'est plus pour sauver l'honneur de Harvey Dent. En fait, il choisit d'être responsable en fait des crimes que Dent a commis pour justement pas salir l'image de Dent.
Il y a plusieurs fins. C'est vrai que je pense que le film aurait pu durer 2 heures, mais c'est vrai que moi je regrette pas du tout qu'il dure 2h30. Je crois même qu'il devait durer 2h45, mais que la Warner a quand même voulu couper. Mais il est presque épuisant, Batman The Dark Knight. C'est que sans arrêt, le film redémarre et il y a des personnages principaux qui meurent. Du coup, le spectateur s'était identifié presque au personnage de Rachel. Donc, je spoil aussi, mais qu'elle se fasse. Qu'elle explose au milieu du film, ça relance une deuxième intrigue. Après, on tend vers la vengeance du personnage et comment ce personnage qui est censé être juste.
C'est une partie de poker, ouais. Par ce côté-là, Joker, il gagne. D'ailleurs, il le dit lui-même, en fait. Il se fait attraper, il va finir en asile psychiatrique, enfin bon. Mais quelque part, il gagne, le Joker. Il gagne parce qu'il se débarrasse quand même de Harvey Dent, qui on va dire qu'il avait quand même réussi à nuire énormément à la paix, qui avait fait... s'est débarrassé de plusieurs réseaux et donc qui avait réussi à remettre la sécurité dans Gotham, on va dire. Donc il arrive à se débarrasser de ce procureur et il arrive aussi, il fait d'une pierre deux coups, à faire porter le chapeau donc de crime à Batman qui, en fait, de justicier quand même aux yeux de beaucoup de gens, en fait, va passer pour un criminel, en fait.
C'est-à-dire que quand il met son costume, il a le costume du justicier bien puissant et tout. Quand il le retire, il passe dans un autre un autre système de réflexion, un homme d'affaires normal. Il sait que Batman existe, il sait qu'il est Batman, il se sert un petit peu, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de... Je pense de... Il se mélange pas, en fait. Alors que Double Face, Harvey Dent, lui, il y a tout qui se mélange. Lui, il est l'image du schizophrène. Enfin...
Bon, ils font une utilisation... Enfin, ils font ressortir un côté moins sombre de la ville, en fait. Dans The Dark Knight, oui, j'ai vraiment l'impression que la ville, ça peut être une ville, oui, effectivement, où on vit. Contrairement à... Peut-être à l'opus précédent, Batman Begins, où il y avait plus un côté noir qui ressortait quand même. C'était beaucoup plus sombre, Gotham. On sentait vraiment une ville pourrie, quoi. On sentait une ville qui était vraiment gangrénée par le mal, mais avec donc vraiment un jeu de couleurs très très sombre, peut-être plus proche du Batman de Tim Burton, le premier, certainement du comic, je pense, où vraiment c'est noir. Là, dans cet épisode-là, c'est moins mis en valeur. La ville, elle est moins sombre. Je sais pas, justement, ça entretient ce côté mystérieux. Il a vraiment un état d'esprit, je sais pas comment dire, particulier, qu'on sait pas vraiment. Et tout au long du film, en fait, rien n'est apporté pour qu'on sache qui il est, en fait. Même, je me rappelle donc de scènes là où, en fait, il explique ses cicatrices sur le visage, bon, qu'il masque avec le rouge à lèvres, et il donne deux versions. C'est vrai que quand on écoute la première version, là, qu'il explique c'est une histoire avec son père, en fait, qui poignarde sa mère, et que, en fait, c'est son père qui lui fait les cicatrices. Là, en fait, on peut se dire, bon, c'est ça, donc c'est peut-être pour ça qu'il est... Psychologiquement, il est peut-être dérangé, c'est suite à cet événement-là, dans son enfance, et puis... Un peu plus loin dans le film, il réexplique à, je crois que c'est à Rachel, là, l'héroïne, là, qu'en fait, c'est sa femme, là, enfin, je sais plus s'il explique.
Puis même au niveau du maquillage, il est magnifique. Moi, j'étais un peu déçu parce qu'il y a un moment, on le voit, donc il est avec son pistolet, là, comme ça, dans le taxi, je crois. Donc il roule. Et puis, j'ai trouvé qu'on le montrait trop vite. Et puis il a pas assez de place dans le... Je sais pas, il a pas assez de place dans l'histoire. C'est pour ça que justement je pense qu'il manque une demi-heure.
Au début je me dis que le personnage réagissait à l'instinct. Du Joker, comme il le dit, c'est un chien en liberté qui mord, mais dès qu'il a mordu le pneu de la voiture, il le lâche, ça l'intéresse plus. Alors qu'en fait, parce que je l'ai vu deux fois le film, et en fait, on voit toute la manipulation, ne serait-ce que depuis le plan initial où il va prendre l'argent de la mafia dans la banque. Après, il construit sa petite clique, et en fait, c'est assez bien établi son plan pour arriver... Pour arriver à ce qu'il souhaite, c'est-à-dire prendre la tête de la mafia et devenir prince du crime de Gotham City. Après, est-ce que ses actions seraient complètement établies je sais pas, mais c'est vrai que on voit la finalité du personnage, enfin la finalité de ce qu'il souhaite. On sent qu'il a un objectif et qu'il se donne les moyens par des actions assez, assez intelligentes.
Un petit peu noir, d'ailleurs, c'est dans ce qui est dans l'aspect du comics. Le comics est lui-même un très noir. Les combats, même à certains moments, les héros se battent entre eux. Donc c'est cet effet héros-anti-héros qui est appréciable.
Une demi-heure, on l'aurait vu beaucoup plus longtemps. Ouais, je pense qu'il manque. Il manque du temps. En plus, un film comme ça, t'as envie qu'il dure 3 heures, donc...
Ernst Zegger, qui était un très bon acteur, que j'ai connu dans Chevalier, un film médiéval un petit peu osé, on va dire. Et je pense qu'il manquera beaucoup d'abord pour la saga Nolan Bell, pour la nouvelle franchise Batman, et tout simplement au monde du cinéma.
Thank you.